Bonjour à vous. Je vous propose de commencer tout de suite cette seconde rencontre de l'après-midi qui va nous offrir une première exploration de ce monde à la fois familier et lointain qui est l'islam à travers son histoire. Et pour ce faire, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Loiseau, qui est historien. Ses domaines de recherche sont l'histoire du Proche-Orient médiéval, l'histoire plus précisément de l'islam, et également un autre sujet qui est l'histoire urbaine, comme d'ailleurs Patrick Boucheron. Tu es maître de conférences à l'université, mais actuellement tu es directeur de l'Institut français de Jérusalem.
C'est ça, du Centre de recherche français à Jérusalem.
Voilà. Julien Loiseau a assuré la coordination avec Pierre Monnet et Yann Potin de ce monument qu'est l'histoire du monde au XVe siècle, sous la direction de Patrick Boucheron, ouvrage qui est paru donc chez Fayard en 2009 et qui est réédité en poche actuellement. Voilà. Il a publié donc en dernier lieu ce livre dont il sera question en fait aujourd'hui, Les Mamelouks, une expérience politique dans l'islam, qui est paru en 2014 aux éditions du Seuil. Aventure tout à fait étonnante sur plusieurs siècles de ces mamelouks dont il va nous entretenir. Il a choisi d'intituler son intervention « Garib ou la fascination de l'étranger, la fabrique des identités en islam ». Alors, Garib, ne cherchez pas partout de ce dont il s'agit, vous ne trouverez pas le personnage. Il va vous expliquer ce dont il s'agit. C'est un mot fabriqué. Voilà. Merci beaucoup.
Merci infiniment, Dominique. Merci beaucoup pour cette invitation au banquet du livre à la grâce. Je suis vraiment très heureux que dans mes parcours entre Montpellier et Jérusalem, le chemin ait pu passer par la grâce cet été. Donc, mille merci à Dominique et à la maison du banquet. Alors, quoi de plus étranger qu'une langue que l'on n'entend pas. Cette expérience de l'étrangeté que chacun d'entre nous a pu faire, cette expérience est sans doute plus saisissante encore lorsque ce qui est dit dans cette langue à nous étrangère, quand ce qui est dit nous est en soi très familier. Cette expérience, expérience déroutante, expérience de l'étrangeté au sein même d'un univers de pensée familier, c'est cette expérience que faisaient au Moyen-Âge les pèlerins latins lorsqu'ils arrivaient à Jérusalem et qu'ils assistaient aux célébrations des différentes églises d'Orient, toutes représentées au sein de cette pieuse Babel qui est encore aujourd'hui le Saint-Sépulcre. Les pèlerins latins qui comprenaient et ne comprenaient pas tout à la fois la messe célébrée par leurs cousins très éloignés, leurs aînés dans l'histoire de la foi, qui étaient les Grecs, les Syriens, les Arméniens, les Éthiopiens. Le langage est pourtant un véhicule qui nous est des plus familiers, et l'on sait confusément qu'une langue, aussi étrangère à nous qu'elle soit, une langue est toujours susceptible d'accueillir notre pensée. L'on sait confusément que la traduction, aussi imparfaite qu'elle soit, est toujours un horizon possible de l'échange avec ceux qui nous sont étrangers. Un autre pèlerin, un faux pèlerin celui-là, qui n'était venu en Orient au XVe siècle que pour comprendre les changements dans l'ordre du pouvoir, pour comprendre la montée en puissance de celui qu'en Europe on appelait déjà le Grand Turc, le Sultan Ottoman, et repérer incidemment les itinéraires possibles d'une nouvelle croisade. Ce faux pèlerin, Bertrandon de la Broquière, envoyé par le duc de Bourgogne, avait résolu d'apprendre une langue étrangère, le turc. Avait résolu d'apprendre le turc pour mieux se fondre dans le paysage, pour mieux passer pour un turc. Et on le comprend bien tant les turcs qu'il rencontrait sur son chemin étaient bien souvent devenus turcs depuis peu. Et je reviendrai sur ces turcs de profession, ces turcs d'emprunt, ces turcs provisoires. Bertrandon, dont je vous recommande la lecture savoureuse de son voyage d'outre-mer, Bertrandon avait donc résolu d'apprendre le turc. À Damas, il avait rencontré un homme assez habile en toscan et en turc pour lui confectionner un lexique bilingue, une petite ration de mots qui lui permit de traverser sain et sauf toute l'Anatolie. Que ce traducteur d'occasion fût un juif de Crimée, marchand d'esclaves à 16 heures, n'est sans doute pas une circonstance indifférente. J'y reviendrai. À Gaza, où est passé également Bertrandon, c'est d'un juif de Sicile qu'il était parvenu à se faire comprendre. J'y reviendrai tant ces histoires tissent entre elles un faisceau de sens. Bertrandon avait compris que par la langue, par la traduction dans un premier temps, par l'apprentissage de la langue dans un second temps, il saurait se rendre intelligible ces hommes dont il partageait a priori si peu de choses, ces cavaliers dont il ne partageait pas même la façon de monter à cheval, de ferrer sa monture ou de se battre, sans parler évidemment de ses croyances ou de ses convictions. Au bout du voyage, Bertrandon, qui avait appris leur langue, qui avait partagé leur pitance, leur prière, leur ivresse, le récit du voyage rapporte ainsi une scène de beuverie mémorable, Bertrandon les déclara donc hommes remarquables, bons compagnons, et bien plus dignes de confiance, au fond, malgré leur foi en Mahomet, bien plus dignes de confiance que ne l'étaient à ses yeux les Grecs, chrétiens hérétiques, dont la traîtrise foncière avait été amplement démontrée par l'histoire de la croisade, si vivante encore à l'esprit de Bertrandon. Ceux qui nous sont le plus parfaitement étrangers suscitent ainsi parfois une empathie que ne méritent pas à nos yeux ceux-là qui, tout en restant à nous étrangers, nous sont plus familiers pour avoir partagé notre histoire. Plus fondamentalement encore, l'étranger que l'on observe chez lui, dans sa patrie, dans le milieu même où il est le moins étranger, cet étranger exerce un attrait qu'il perdrait bien vite s'il venait à s'établir chez nous, dans un milieu auquel il est fondamentalement étranger. Et la question qui se pose déjà en filigrane est bien celle de notre rapport à l'allochtonie, à l'autochtonie. J'y reviendrai plus tard. Mais attardons-nous encore un peu sur la question de la langue. Apprendre une langue étrangère, c'est entreprendre un voyage. Un voyage dont on sait par avance qu'il sera dépaysant, déroutant, désorientant, à proportion de l'étrangeté de cette langue à notre propre langue maternelle. Je ne parlerai pas du turc, resté longtemps une langue des marges dans le monde de l'islam. Le turc qui n'accéda à la dignité de langue littéraire et de langue de cour qu'assez tard dans l'histoire, à partir du XIVe et surtout du XVe siècle. Je ne parlerai pas tant du turc que de l'arabe, qui longtemps éclipsa de tout son prestige les autres langues de l'islam. Et pour ceux que cette question complexe intéresse, je vous renvoie au magnifique livre de Benoît Grévin, Essai sur le Moyen-Âge du langage, intitulé « Le parchemin des cieux », qui revient sur cette complexe relation entre les différentes langues de l'islam. Alors l'arabe. Cette langue parlée dans l'Antiquité, dans une région comprise entre la péninsule arabique et le désert syrien. De cette langue, nous n'avons conservé que très peu de traces écrites avant la formation de l'Empire de l'Islam, au 7e et 8e siècle. Très peu de traces écrites, à l'exception de quelques inscriptions, retrouvées en Syrie, le plus souvent en contexte chrétien. Pourtant, les Arabes polythéistes d'avant l'Islam avaient une tradition poétique bien établie, mais une tradition de transmission orale. Une tradition poétique dont la mémoire, d'ailleurs, n'a pas disparu. Les poèmes les plus prestigieux de l'anté-islam, poèmes recensés par des anthologues, ont été érigés en véritable monument de la langue arabe. C'est dans cette langue de poètes, langue de prophètes, et que sont les poètes dans la société arabe d'avant l'islam, sinon des prophètes de l'illusion ? Que sont les prophètes, sinon des poètes du vrai ? C'est dans cette langue de poètes, langue de prophètes, que se constitue, au 7e siècle, le corpus coranique dont les historiens n'ont pas fini de débattre sur le moment de sa mise par écrit et surtout sur le moment de sa fixation peu ou prou définitive, celle-ci n'étant sans doute pas antérieure à la fin du 7e siècle, plus d'un demi-siècle après la mort du prophète Mohammed. Langue de la révélation coranique, langue de la parole de Dieu délivrée, dit le Coran, dans la langue claire des Arabes. L'arabe devient bientôt langue d'empire, remplaçant progressivement le grec, le copte, le persan dans les documents de la chancellerie ou de l'administration. C'est l'Empire, et non le Coran, qui a fait de l'arabe une langue universelle, langue employée par les élites d'un empire mondial qui s'étirait de l'Atlantique à l'Indus. Bien au-delà des limites de ces pays où l'arabe est devenu peu à peu langue vernaculaire, bien au-delà de ces pays que nous appelons aujourd'hui le monde arabe. C'est en tant que langue d'empire que l'arabe a été colligé, codifié, normalisé. Travail méthodique de grammaire, grammaire presque mathématique, dont les principaux artisans furent les secrétaires persans au service de l'Empire. Travail titanesque de lexicographie également, aboutissement de véritables enquêtes lexicographiques menées au désert, auprès des Bédouins. Les Bédouins restaient fidèles au mode de vie d'origine des Arabes, et pour cette raison même, considérés comme les meilleurs gardiens de la pureté de la langue. Warit Wati, dans son ouvrage « Islam et voyage au Moyen-Âge, histoire et anthropologie d'une pratique lettrée », le voyage comme pratique lettrée, a consacré de très très belles pages à ces enquêtes lexicographiques. Et c'est pour cette raison, c'est par le travail des lexicographes, que toutes les racines ou presque de la langue arabe. L'arabe étant en effet, comme les autres langues sémitiques, une langue structurée en racines. En racines constituées le plus souvent de trois consonnes à partir desquelles sont dérivées les différentes formes verbales et les substantifs. C'est pour cette raison, c'est par le travail des lexicographes que pratiquement toutes les racines de l'arabe comprennent des mots relatifs soit à l'élevage des dromadaires, soit à l'élevage des chevaux. Et ce motif, on peut voir dans ce motif toute la créativité et même la malice des informateurs, la malice des bédouins interrogés au 8e et 9e siècle, interrogés par des lexicographes citadins en mal d'authenticité bédouine. Alors prenons un exemple de racine de l'arabe, exemple qu'évidemment je ne choisis pas au hasard. L'exemple de la racine formée par les trois lettres ra, ra, ba. Un mot nous est familier dans cette racine, c'est le Maghreb. Le Maghreb en arabe, al-Maghrib, qui désigne l'ouest, qui désigne l'occident, qui désigne le côté du soleil couchant. On y trouve également dans cette racine, sans rapport apparent, le corbeau, al-Ghurab. Le corbeau, oiseau à la mauvaise réputation depuis qu'il a déçu les espérances de Noé qui, pendant le déluge, l'avait envoyé reconnaître la terre ferme. Et le corbeau ne revint jamais, il avait trouvé en route une charogne. Oiseau à la mauvaise réputation, oiseau de mauvais augure, dont on interprète le vol et le croassement pour y lire l'avenir. Mais ces deux premiers sens de la racine, si différents, le corbeau et le couchant, peuvent être rapprochés. Et le rapprochement peut devenir évident lorsque les circonstances s'y prêtent. Un exemple, nous sommes au XIIe siècle. Jérusalem est aux mains des croisés. Et l'une des portes de la ville, la porte de la colonne, Bab al-Amoud, prend sous le nom de certains géographes du XIIe siècle le nom de porte de la colonne du corbeau. Et oui, parce que cet oiseau funeste, alors, était bienvenu d'Occident. Évidemment, allusion à la mainmise des croisés sur la ville sainte. Le corbeau est aussi, de manière proverbiale, l'oiseau qui ressemble à un autre corbeau, plus qu'aucune chose ne peut ressembler à une autre chose. Et en islam, les Rorabiya sont une branche du chiisme qui considère que l'ange Gabriel, l'ange, comme vous le savez, chargé par Dieu de transmettre la révélation, non pas à Muhammad, mais à Ali, l'ange Gabriel l'avait délivré à Muhammad, car les deux hommes, disent ces Rorabiya, les deux hommes se ressemblaient, disent-ils, comme un corbeau ressemble à un autre corbeau. Encore que tous les Rorabiya ne soient pas d'accord sur la responsabilité de l'ange Gabriel. Avait-il agi par mégarde ou s'était-il trompé de destinataire intentionnellement ? Le corbeau est enfin l'oiseau noir par excellence. Et en arabe, les arriba, littéralement les corbeaux, sont les hommes au teint sombre, au teint presque noir, sans qu'à l'origine cette qualification ne soit péjorative. À l'image d'Antara, célèbre poète d'avant l'islam, héros d'un roman épique né d'une esclave éthiopienne. Il faut en fait attendre les 9e et 10e siècles, attendre le développement de la traite négrière à destination des terres d'islam, pour que se fixent les stéréotypes négatifs sur les hommes à la peau noire, que se fixe également le thème de la malédiction de Cham. Mais revenons à notre racine. La langue arabe apprécie, affectionne les antonymes, et le noir peut devenir blanc, le couchant peut devenir levant. La forme morab qualifie ainsi le cheval, dont la robe comporte une grande tache blanche qui s'étend jusqu'aux yeux. Morab désigne aussi l'aurore, antonyme du couchant. Même racine, autre sens. Rirab est un mot que l'on emploie pour désigner, sur le tranchant d'un sabre, l'endroit précis où la lame se courbe, l'endroit précis où réside la force principale du coup que l'on porte. Il est dès lors logique que Rarab qualifie la partie culminante de toute chose et par excellence le sommet de la bosse du dromadaire. Mais, vous l'avez compris, je m'égare à dessein dans le vertige de la lexicographie arabe. Car enfin, là n'est pas le sens principal de la racine, là n'est pas, bien évidemment, là où je veux en venir. Le verbe raraba signifie en arabe s'en aller, partir, s'éloigner, quitter son pays. Signifie aussi arriver de l'ouest, arriver de l'étranger. Le verbe irtaraba dit voyager à l'étranger, devenir étranger, mais aussi prendre une femme étrangère pour épouse, ce qui est sans doute déjà le début d'un voyage. Araba, c'est devenir étrangère à son pays, mais aussi être étrange, être extraordinaire en quelque chose. Ainsi, l'ombre du corbeau plane sur cette famille de mots. Le harb est une séparation, la horba est un exil, le mohrib une calamité, voire la mort elle-même. Mais comme toujours avec l'étranger, la fascination le dispute à la crainte, et le mot harib désigne tout autant que le voyageur, désigne tout autant que l'homme qui vient de l'étranger, désigne ce qui est étrange, ce qui est extraordinaire, ce qui est inouï, ce qui est curieux à voir. Une hariba est une chose extraordinaire, une curiosité. Et la langue arabe, qui aime rien plus que de rapprocher par paire les mots de racines différentes, appareille volontiers hariba, une chose extraordinaire, et ajiba, une merveille, une chose étonnante. Dans les mille et une nuits, ce trésor de la langue arabe dont Jean-Claude Garcin a proposé récemment une ambitieuse relecture pour une lecture historique, c'est le titre de l'ouvrage, pour une lecture historique des mille et une nuits. Les mille et une nuits comportent d'ailleurs un conte qui voit s'opposer deux frères, appelés Ajib et Harib, deux contes dont la clé est sans doute à chercher, nous dit Jean-Claude Garcin, à la cour ottomane, dans la rivalité entre le sultan ottoman Murad IV et son demi-frère Othman. Mais peu importe ici le fond de vérité historique. Harib, l'étranger ou l'extraordinaire, se donnait en effet comme nom propre, nom d'homme, mais aussi nom de cheval, nom de lieu également. Dans le conte de Ajib et Harib, Harib est celui qui est né en exil. C'est l'une des figures du pauvre étranger, El Meskin El Harib, dont les mille et une nuits comptent de nombreuses incarnations. Mais l'exil est toujours réversible, et dans son monde, et dans ce monde de marchands que sont les mille et une nuits, on part à l'étranger chercher fortune. On fuit la pauvreté de sa patrie. Autre exemple, le conte d'Abul Hassan El Omani. Le comte d'Abul Hassan al-Omani qui met en scène un riche marchand d'Oman. Ce riche marchand prononce la sentence suivante, relevée par Jean-Claude Garcin. On dit, dit ce riche marchand, on dit que la pauvreté dans son propre pays, c'est comme l'exil, c'est comme la ghurba. Et qu'à l'inverse, la fortune dans l'exil, la fortune à l'étranger, c'est le pays, c'est la patrie. L'exil est donc toujours la promesse d'un retour dans la fortune et le succès. Aussi, dans la culture religieuse des auditeurs des contes des mille et une nuits, l'expatriation du marchand ne fait que rappeler un exil autrement plus fondateur, matrice de l'exil de tous les exilés, préfiguration du voyage de tous les voyageurs, celui de l'égir, celui qui vit le prophète de l'islam, dont on n'oubliait pas qu'il avait d'abord été un marchand, celui qui vit le prophète de l'islam contraint de quitter la Mecque pour se réfugier à Médine et dans l'exil construire les conditions de son succès avant d'entrer victorieux 10 ans plus tard, dans la cité qu'il avait chassée. Un hadith, une parole du prophète, une tradition à laquelle Christian Jambet va consacrer deux séances dans les jours qui viennent, et je ne m'y attarderai donc pas. Un hadith, une parole du prophète, résume d'ailleurs cette valeur fondatrice de l'égir, cet exil premier à partir duquel, comme vous le savez, l'islam compte le temps. Elle est très courte, je vous la dis en arabe puis en français. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. Ce qui veut dire la chose suivante, l'islam a commencé en étranger, il redeviendra comme il a commencé en étranger. Bienheureux les étrangers. Ce hadith, cette parole prêtée au prophète, connue sous le nom de hadith des étrangers, hadith al-ghuraba, a depuis longtemps été, comme beaucoup de traditions prophétiques, l'objet de nombreux commentaires. Je reviendrai in fine sur l'usage qu'en fait aujourd'hui l'islam politique, qui accorde, comme on le sait, une valeur fondamentale à la geste des origines, à l'islam d'avant l'histoire, à cet islam année zéro, dont d'ailleurs l'absence de sources écrites avant la seconde moitié du 8e siècle, en l'absence de sources écrites, ou peu s'en faut, on ne saura jamais rien de positif, ou presque. D'autant moins d'ailleurs que le recours à l'archéologie est aujourd'hui impensable pour comprendre cet islam des origines, et sans doute déjà impossible avec la destruction des niveaux archéologiques à la Mecque et à Médine. Laissons pour le moment cet islam sans mémoire, négateur de sa propre histoire, et revenons donc à l'histoire de l'islam qui a investi l'égir, qui a investi l'exil premier d'une valeur d'exemple, d'un exemple d'autant plus souvent reproduit qu'il donnait du sens aussi bien aux entreprises du négoce qu'aux entreprises de guerre. L'islam s'est pensé lui-même en tant qu'histoire, au fil de son histoire, au fur et à mesure de son histoire, comme l'histoire d'un exil toujours recommencé, un départ qui appelait un retour et qui faisait la part belle aux étrangers. Mais qui sont les étrangers dans l'histoire de l'islam? Il faut, pour tenter d'y répondre, se figurer comment l'islam, avant de se penser comme histoire, se pensait comme espace, ou plus exactement, se pensait comme monde. Du monde et de l'étranger. C'est le très beau titre qu'André Michel, a donné un petit recueil de textes où il a ramassé en quelques pages l'essentiel peut-être de son œuvre immense, œuvre d'une vie consacrée à la littérature arabe. André Miquel est aussi co-traducteur des Mille et Une Nuits dans l'édition de La Pléiade. Œuvre d'une vie qui fut consacrée, entre autres choses, plus précisément à ce qui fut sans doute l'expression littéraire la plus exacte de l'Empire de l'Islam à son apogée des 9e et 10e siècles, à savoir sa géographie. La géographie arabe des 9e et 10e siècles procède d'une triple description. Description du monde, description du domaine, description enfin de l'étranger. Héritière de l'œuvre de Ptolémée, de la géographie grecque, la géographie arabe se représente le monde comme un ensemble contigu de terres émergées, circonscrit, cet ensemble, par le grand océan environnant et percé d'autant de golfes qu'il y a de mers de par le monde. Ce continent unique, qui n'est autre que notre vieux monde, qui n'est autre que ce que Christian Grataloup appelle l'Afro-Eurasie, c'est le monde moins le nouveau monde. Ce continent unique n'est que partiellement habité par l'homme, nous dit la géographie arabe. Plus on progresse vers le nord, plus on progresse vers le sud, plus les conditions climatiques deviennent hostiles à la civilisation, au point que les extrémités du monde n'abritent aucune société organisée, n'abritent même plus aux extrémités du monde aucune humanité. Le monde humanisé, quant à lui, n'est jamais mieux décrit que lorsqu'on le divise en climats. Les climats, dans la géographie grecque comme dans la géographie arabe, ce sont des bandes territoriales, des bandes longitudinales qui s'étirent d'ouest en est, s'étagent du nord au sud. La géographie arabe divise le monde habité en 7 climats. Le 4e climat, qui occupe le centre du monde humanisé, est, vous l'aurez compris, le climat le plus propice à la civilisation. Plus on s'en éloigne, plus s'estompent les signes de la civilisation. Ces signes, c'est la ville, c'est l'échange monétaire, c'est la religion révélée, c'est le règne de la loi. Plus on s'en éloigne, plus s'estompent les signes de la civilisation et plus les hommes s'en sauvagent. Voilà, en quelques mots, la description du monde. Vient ensuite la description du domaine de l'islam, le Dar al-Islam. Le domaine de l'islam qui n'est pas, ou qui n'est pas encore au Moyen-Âge, loin s'en faut, le monde musulman, c'est-à-dire un monde où les musulmans sont devenus majoritaires. Le domaine de l'islam au Moyen-Âge, c'est le monde où règne la loi de l'islam, quelle que soit, ou presque, la confession des sujets. Et des siècles durant, les sujets non musulmans y furent la majorité. Le domaine de l'islam, disent les juristes et les hommes de religion, est appelé à s'étendre jusqu'aux extrémités du monde, puisque l'islam a vocation à l'empire universel. Le domaine de l'islam, disent les géographes, s'est stabilisé. Il s'est stabilisé après le premier siècle des conquêtes. Et il épouse peu ou prou les contours du 4e climat. Le climat qui avait vu s'épanouir les empires plus anciens, les Égyptiens, les Babyloniens, les Hébreux, les Assyriens, les Grecs, les Romains. C'est le climat le plus propice à la civilisation. Alors, il y a bien sûr des ajustements à cette carte du domaine. La Chine n'appartient pas au domaine de l'islam, alors même qu'elle relève du 4e climat. L'Inde, qui s'étire vers le 3e climat, s'éloigne du domaine, mais les conquêtes turques des 11e, 13e siècles l'ont progressivement fait entrer dans le domaine de l'islam. L'essentiel du travail des géographes arabes, l'essentiel de ce qu'André Miquel a appelé la géographie humaine du monde musulman, ce travail a consisté à décrire le domaine dans son plus grand détail, dans toute sa diversité de peuples, de langues, de coutumes. Et l'on touche là à un point essentiel. L'islam s'est longtemps pensé comme monde. Non pas comme un monde uniformisé où une norme unique s'imposerait à tous de manière hégémonique. Ce projet totalitaire, transnational, porté aujourd'hui par l'islam politique d'inspiration wahhabite, quelles que soient d'ailleurs ses formes d'action. Non pas comme un monde uniformisé, mais comme un monde divers. Mais un monde unifié néanmoins, un monde né de cette formidable mise en connexion réussie en un siècle par les conquêtes arabes. Un monde transgressant les antiques frontières du vieux monde, transgressant tout particulièrement la vieille frontière de l'Euphrate qui avait si longtemps séparé l'ouest et l'est du monde, l'empire perse à l'est, l'empire romain à l'ouest, cette vieille frontière de l'Euphrate que seul Alexandre, pour 30 ans seulement, avait su transgresser. Voilà ce qu'est le monde de l'islam, un monde dont la richesse résidait précisément dans la compréhension fine de sa diversité. diversité des ressources, diversité des produits, diversité des langues, des parlers, des accents, diversité des croyances, même limitée aux seules religions révélées, diversité des provinces, des peuples, des génies nationaux. Et l'on comprend que ce monde fut avant tout un monde de marchands et de caravanes. On comprend que les géographes arabes fussent eux-mêmes avant tout des marchands, puisque toute la richesse de ce monde ne se révèle qu'à celui qui prend le risque de quitter sa patrie, ne se révèle qu'à celui qui quitte sa patrie pour spéculer à longue distance sur la rareté et l'abondance. Un risque au vrai mesuré, puisque d'une extrémité à l'autre du domaine de l'islam, la même loi, la même monnaie, la même langue pouvaient servir au dessein de tous. Pour le dire en peu de mots, l'islam s'est longtemps pensé comme un monde où l'expérience de l'étranger était la plus familière qui soit. L'islam s'est longtemps pensé comme un monde où l'expérience de l'étranger était la plus familière qui soit, soit que l'étranger advienne sous l'apparence d'un marchand, ou sous l'apparence d'un savant, ou l'apparence d'un esclave. Et la liberté ou l'absence de liberté ne change rien ici à cette expérience familière de l'étranger. Soit que l'on ait fait le choix de l'exil pour tenter la fortune, soit même, mais c'est un cas particulier sur lequel je vais revenir, soit même que l'on ait trouvé la fortune au bout de l'esclavage. On comprend mieux pourquoi la figure de l'étranger, du pauvre étranger, El Meskin El Gharib, soit si familière dans les contes des Mille et Une Nuits. La géographie arabe procédait, disais-je, d'une triple description. Description du monde, description du domaine, description enfin de l'étranger. Ou peut-être devrais-je dire description du monde extérieur, extérieur à la loi de l'islam, et bien souvent étranger à toute forme de civilisation. C'est là, disent les juristes et les hommes de religion, le domaine de la guerre. La guerre que doit y porter l'islam pour y étendre sa loi jusqu'à l'extrémité du monde. C'est là, disent les géographes, au plus loin un monde trop incertain pour qu'on en puisse connaître autre chose que des noms fabuleux, des légendes, des merveilles, Ajiba ou Ghariba. C'est aussi au plus près de l'islam, au plus près des marches frontalières de l'islam, un monde dont on peut tirer de remarquables ressources. Au sud, l'or. Au nord, l'ambre gris. Au sud, les esclaves que l'on fait travailler dans les champs ou au service des maisons. Au nord, les esclaves dont on fait des soldats. De même que les peuples civilisés ont chacun leur science, leur génie propre, et partant ont chacun leur emploi au sein du domaine de l'islam. De même, les peuples éloignés de la civilisation ont chacun leur vertu que l'on peut mettre au service de la civilisation. La loi islamique interdisant de réduire en esclavage les sujets du domaine de l'islam, qu'ils fussent musulmans ou non musulmans protégés par la loi, sauf à ce que les uns ou les autres soient déclarés rebelles à la loi, la loi islamique interdisant de les réduire en esclavage, il fallait que les esclaves viennent d'au-delà de l'islam, viennent de ce monde extérieur, soient importés depuis les climats les plus éloignés de la civilisation. Si l'esclavage était un phénomène universel dans le monde antique, la traite, c'est-à-dire le commerce à longue distance des esclaves, la traite, elle, ne s'est mise en place qu'avec le ralentissement des conquêtes arabes, ne s'est mise en place qu'avec la stabilisation du domaine de l'islam, domaine de l'islam qui fut un grand consommateur d'esclaves importés d'au-delà de ses frontières. Avec le développement de la traite, avec également l'affirmation qu'à chaque peuple, au sein comme en dehors de l'islam, qu'à chaque peuple correspondent des talents, des facultés propres, se sont fixés progressivement les préjugés de couleur dont la culture arabe avait jusque-là été exempte. Certes, on trouve bien des exemples dans l'histoire de l'islam où un souverain a confié sa garde personnelle aux soins d'esclaves noirs et la garde de son harem à des eunuques blancs, mais l'inverse fut plus souvent vrai. Les esclaves noirs versés aux tâches physiques les plus ingrates, les plus rudes, les esclaves blancs versés au service des armes. Et encore, je ne parle ici que des hommes, la taxinomie des femmes esclaves obéissant à d'autres catégories encore. Mais voilà que je parle comme si de rien n'était d'un fait social à nous, très étranger, sans doute le plus étranger à la pensée politique occidentale, et qui fut pourtant, dans l'histoire de l'islam, une circonstance par excellence de l'expérience de l'étranger. Ce fait social, c'est le recrutement de gardes royales par le biais de l'esclavage, la promotion dans l'État, au plus haut rang de la hiérarchie militaire et de la cour, d'esclaves, soldats, affranchis, ces hommes que la langue arabe désigne par le terme de « roulam », serviteur, et plus souvent encore par le terme de « mamlouk », qui signifie littéralement « la chose qui est possédée ». Alors au vrai, les mamelouks ne nous sont pas complètement étrangers. nous ne sommes plus étrangers depuis que le général Bonaparte vainquit les Mamelouks à la bataille des pyramides, depuis que Bonaparte recruta parmi les jeunes esclaves des maisons Mamelouks du Caire un régiment qui fut de toutes les batailles de l'Empire, depuis que Bonaparte prit à son service personnel le Mamelouk arménien Roustam. Les Mamelouks qui, au XVIIIe siècle, gouvernaient l'Égypte au nom du sultan d'Istanbul, étaient les derniers héritiers d'une tradition politique millénaire, une tradition politique remontant au IXe siècle, quand les califes abbassides qui régnaient sur l'Empire de l'Islam, quand les califes étaient les premiers constitués une garde royale d'origine servile. Or, depuis quelque temps déjà, nous sommes au IXe siècle, depuis quelque temps déjà, les califes avaient substitué aux armées arabo-persanes qui les avaient initialement portées au pouvoir, leur avaient substitué des troupes turques, constituées d'hommes libres venus d'Asie centrale. Ce choix délibéré de la différence ethnique, ce choix de l'allochtonie des armées, avait pour objectif d'affranchir le souverain des querelles claniques, de doter le souverain d'une force neuve, indépendante de la vieille aristocratie arabe et davantage susceptible de fidélité. L'idée n'était pas mauvaise, elle n'était pas entièrement bonne, et les déboires que rencontrèrent les califes, le calife fut assassiné par l'un de ses officiers turcs, ces déboires amenèrent ses successeurs à franchir une étape supplémentaire, à doubler l'efficacité du choix ethnique par un lien de fidélité irrévocable. Et quel lien plus fort ? Quel lien plus fort, comme l'a remarquablement montré l'anthropologue Alain Testard dans son ouvrage sur la servitude volontaire ? Quel lien plus fort que celui qui unit l'esclave à celui qui l'a acheté, qui l'a nourri, qui l'a éduqué, dans la promesse ou non de l'affranchissement. Une fidélité qui se prolonge au-delà de l'affranchissement par le lien de clientèle. La clientèle, ses droits et devoirs de l'affranchi envers son patron, que connaissait si bien le droit romain, et qu'a repris à son compte le droit islamique. Ainsi est-ce en Irak, à la fin du IXe siècle, dans les palais de Samaras et de Bagdad, que se fixa le paradigme mamelouk, alliage redoutable de différenciation ethnique et d'esclavage, où le serviteur le plus fidèle était choisi pour les qualités martiales réelles ou supposées de son peuple et soigneusement éduqué aux arts de la guerre. Le mamelouk était ainsi par définition doublement étranger, né d'un peuple distinct de la majorité des sujets de l'Empire et esclave, autrement dit, comme nous l'avons vu, importé d'au-delà des frontières du domaine de l'islam, là où les hommes ont conservé intacte cette sauvagerie qui leur permet de survivre hors de toute civilisation, là où les hommes n'ont pas encore connu l'islam. Très tôt dans l'histoire de l'islam, un siècle et demi après l'arrêt des grandes conquêtes arabes, le pouvoir a donc reposé sur l'introduction délibérée, consciente, d'une force étrangère. Une force étrangère importée et formée à grands frais. Très tôt dans l'histoire de l'islam, le lien s'est noué entre l'origine turque des soldats et le cursus servile qui permettait de les sélectionner. Désormais, et à de rares exceptions près, l'esclave soldat était par définition un esclave blanc, un turc de préférence. Et pendant plusieurs siècles, jusqu'au XIVe siècle, la steppe eurasiatique, devait constituer un formidable réservoir de captifs païens. Par la suite, l'islamisation progressive des peuples de la steppe devait tarir la source. D'autres sources lui furent substituées, les montagnes du Caucase en particulier, qui ne furent pas islamisées avant le XVIIe siècle et dont les populations, mi-païennes, mi-chrétiennes, fournissaient des esclaves très recherchés. La conquête ottomane des Balkans, à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, devait également fournir abondamment les marchés aux esclaves en captifs, captifs grecs ou serbes, mais aussi en captifs francs, pour reprendre l'ethnonyme, les francs, franges en arabe, cet ethnonyme par lequel les textes arabes désignaient les latins. Après la victoire ottomane à la bataille de Nicopolis en 1396, les chevaliers croisés furent pour la plupart, soit exécutés, soit mis à rançon, mais les plus jeunes, leurs serviteurs, leurs pages, furent vendus comme esclaves. On les retrouve quelques années plus tard dans les casernes du sultan du Caire. Plus tard encore, quand les Balkans furent devenus partie intégrante de l'Empire ottoman, les Ottomans substituèrent aux captifs de guerre, il n'y en avait plus, substituèrent un système de prélèvement, le defshirme, ou cueillette, littéralement, la cueillette, qui consistait à cueillir dans les villages chrétiens des Balkans un garçon par famille, pour en faire un soldat esclave du sultan. Ce sont les fameux janissaires. Les janissaires qui ont ainsi prolongé jusqu'au XVIIIe siècle la vieille pratique de l'esclavage militaire. À ceci près qu'à la différence des mamelouks, affranchis par leur maître au terme de leur éducation militaire, les janissaires restaient à vie des capecoulareux, des esclaves de la porte. La diversification ethnique du recrutement des esclaves blancs ne changeait rien pourtant à leur identité collective dans la société islamique. Qu'ils fussent turcs ou mongols, plus tard russes, serbes, grecs, francs, ou surtout circassiens, tcherkesses, plus tard encore géorgiens ou arméniens, ils n'en étaient pas moins tous des mamelouks, c'est-à-dire collectivement des turcs. Des turcs, c'est-à-dire des hommes d'armes passés par le filtre de l'esclavage et dont la nouvelle identité, turque, était venue abolir un passé fondamentalement étranger, car étranger à l'islam lui-même. C'est cette étrangeté, cette nécessaire étrangeté, sur laquelle butaient les pèlerins latins lorsqu'ils arrivaient en Orient et qu'ils croisaient par hasard d'anciens coreligionnaires devenus mamelouks. Ces hommes, venus qui d'Allemagne, qui de Hongrie, ces hommes dans lesquels les pèlerins latins ne voyaient au pire que des renégats, des hommes ayant renié leur foi pour la fausse religion de Mahomet, ou au mieux, la promesse d'une reconquête de la Terre Sainte le jour où ces hommes reviendraient à la foi de leur père. Vaine espérance d'une reconversion des mamelouks, vaine espérance où l'on aurait tort de ne voir que l'impossible retour en arrière. Cette nouvelle identité d'étranger professionnel avait une force d'intégration, avait une capacité d'attraction et d'adhésion que ne saurait expliquer à elle seule la résignation, la soumission à un destin de hasard. Dans cette nouvelle identité collective, la religion musulmane jouait un rôle de passage. Esclaves non musulmans, par définition, bien que ce fussent glissés parmi eux des musulmans qui cherchaient ainsi à tenter la fortune, les mamelouks étaient ensuite convertis à l'islam. Conversion réduite à trois signes, la circoncision, l'attribution d'un nasab, un nom filial, identique pour tous, tous les mamelouks portaient le même nom filial, Ibn Abdallah, fils de l'esclave de Dieu. Pourquoi celui-là ? Parce que c'est tout simplement le nom filial du premier converti à l'islam, c'est le nom filial du prophète Mohammed lui-même. Trois signes de conversion, la circoncision, ce nom filial Ibn Abdallah, et enfin l'apprentissage, troisième signe, l'apprentissage des rudiments de la langue arabe et de la foi musulmane. Qu'ils aient plus tard dans leur vie cherché ou non à approfondir leur connaissance de la foi, et l'on connaît des mamelouks devenus fins transmetteurs de hadith, cela importe peu. L'essentiel était que leur identité sociale dise leur statut de converti, et partant que cette identité sociale souligne leur origine étrangère passée au feu de l'esclavage. Les mamelouks ne recevaient d'ailleurs pas un nom propre arabe, choisi dans le répertoire onomastique musulman, mais conservaient leur nom propre turc, ou, lorsqu'ils n'étaient pas d'origine turque, recevaient de leur premier maître un nom propre turc. Ce nom propre turc était un marqueur essentiel de l'identité mamelouk, au même titre que le bonnet, la ceinture, le sabre, le cheval, le nom turc faisait pleinement partie de l'habit militaire, de l'habit des turcs, faisait pleinement partie de la panoplie qui les distinguait immanquablement des autres hommes au sein de la société. Le fait que beaucoup de ces noms turcs avaient une signification totémique, ce fait contrastait encore davantage leur identité collective. Au milieu des Mohammad, Mahmoud, Ahmad, des Ali, Hassan, Hussein, des Moussa, Yahya, Youssouf, tous noms de prophètes ou de membres de la famille du prophète, les mamelouks, qui s'appelaient Kouchtimur, Aksunkur, Altunbura, se distinguaient, vous l'entendez bien, par la sonorité étrangère de leur nom, mais plus encore et surtout par le sens de leur nom. Kouchtimur, aigle de fer. Aksunkur, gerfaut blanc. Altunbura, taureau d'or. Sans parler des innombrables taureaux d'argent, grand taureau, taureau blanc, ou, mon préféré, taureau heureux. L'étrangeté des mamelouks tenait ainsi à ce nom étrange qui leur faisait un habit. À cette langue étrangère, le turc, qu'ils s'obstinaient à parler ou même à apprendre lorsqu'elle n'était pas leur langue maternelle, et qu'ils employaient entre eux, langue des casernes, langue de l'apprentissage militaire, langue d'une culture de cour et d'une littérature de cour à eux réservée. L'étrangeté des mamelouks tenait également à leur origine étrangère, étrangère au domaine de l'islam, cette alloctonie que rappelait leur nom de conversion et leur culture de converti. Alloctonie dont l'esclavage n'était au fond qu'un moyen, qu'un média, le plus élaboré et le plus efficace qui fut alors approvisionner la civilisation en étrangers triés sur le volet. L'étrangeté des Mamelouks tenait enfin, et peut-être surtout, à ce qu'elle ne pouvait se transmettre. Par un droit qui est à la fois droit du sol et droit du sang, qui est, si je puis dire, le droit du domaine, les enfants des Mamelouks, nés dans le domaine, nés dans le Dar al-Islam, ne pouvaient naître autre chose que libres et musulmans. Ils ne pouvaient par conséquent prétendre ni à la position sociale, ni aux privilèges, ni à l'héritage politique de leur père, qui ne les avait détenus, cette position, ces privilèges, qu'au prix de leur allochtonie. Alors ce tableau des Mamelouks en étrangers magnifiques, en aristocratie étrangère, à dire vrai, ce tableau ne fut pas vrai en tout temps et en tout lieu, tout au long de l'histoire de l'islam. C'est dans un contexte historique précis que l'institution du Mamelouka, appelons-la ainsi, prit la dimension que j'ai brièvement décrite. Quand au milieu du XIIIe siècle, dans le contexte dramatique des conquêtes mongoles, une junte militaire d'officiers mamelouks s'empara du pouvoir en Égypte, sauva le pays du péril païen, étendit en quelques années son pouvoir à la Syrie, sa suzeraineté au lieu saint de l'islam. Pendant plus de 2 siècles et demi, l'aristocratie mamelouk gouverna l'Égypte et la Syrie, porta sur le trône des officiers qui avaient été autrefois des esclaves, qui parvenaient parfois à transmettre leur trône à leurs enfants, mais dont les véritables héritiers politiques étaient plus souvent leurs propres mamelouks. Or, ces 2 siècles et demi d'histoire, milieu XIIIe, début XVIe siècle, ces 2 siècles et demi d'histoire qui précèdent l'avènement des Ottomans au Proche-Orient, ces 2 siècles et demi d'histoire furent, dans l'histoire de l'Égypte et de la Syrie, une période décisive où se fixèrent bien des traits de la société et de la culture qui devaient persister à l'époque ottomane. En Égypte, plus particulièrement, ces grands bâtisseurs que furent les mamelouks encouragèrent la définition d'une architecture nouvelle, un style mamelouk, immanquablement reconnaissable, un style mamelouk que l'on sollicita plus tard, au XVIIIe, au XIXe siècle, lorsqu'il s'agit de s'affranchir, au moins symboliquement, de la lointaine tutelle d'Istanbul. Ou comment des étrangers fascinèrent un pays, pas n'importe lequel, un pays dont l'esprit national fut pourtant l'un des plus tenaces dans l'histoire de l'Empire de l'Islam. Ou comment des étrangers fascinèrent l'Égypte au point qu'en Égypte, le style mamelouk, style promu par des étrangers, est devenu style national. La prise du Caire par les Ottomans devait mettre fin au règne des mamelouks en 1517, mais pas à l'institution elle-même. Et l'on continua en Égypte à acheter des mamelouks, moins souvent circassiens que géorgiens et arméniens, jusqu'à l'arrivée de Bonaparte. Le mamelouka fut ainsi, bien plus que ne le fut le califat lui-même, l'une des traditions politiques les plus stables de la longue histoire de l'islam. Cette tradition s'inscrit en plein, comme du reste le califat, dans une culture politique qui nous est très étrangère, qui nous est d'autant plus étrangère qu'elle distribuait les rôles de cette culture politique en fonction de l'identité ethnique des acteurs, en fonction des talents ou du destin que chaque peuple a reçu en partage, en fonction, pour le dire autrement, d'une subtile grammaire de la différence. Une subtile grammaire de la différence dont l'étranger occupe l'extrémité du spectre. C'est en fonction de cette grammaire que dans, par exemple, la principauté de Grenade au XIe siècle, c'est en fonction de cette grammaire, dans cette principauté où les sujets chrétiens et musulmans parlaient l'arabe, eh bien, les roitelets de Grenade, eux, étaient berbères, comme leurs troupes. Leurs vizirs, leurs fonctionnaires étaient volontiers choisis au sein de la communauté juive. C'est en fonction de cette grammaire que, autre exemple, dans l'Égypte du XIe siècle, où la majorité des habitants étaient chrétiens, où la majorité des citadins étaient musulmans, où la majorité des musulmans étaient sunnites, eh bien, dans l'Égypte du XIe siècle, les souverains eux-mêmes étaient chiites. Leurs troupes étaient berbères, ou noires, ou turques, ou encore arméniennes. Leurs médecins étaient juifs, et l'administration fiscale laissée aux soins des chrétiens. C'est en fonction de cette grammaire de la différence, ou plus exactement au pivot de cette grammaire, identité première autour de laquelle se distribuent toutes les autres identités, c'est en fonction de cette grammaire que le califat, l'autorité première de la communauté et de l'empire, qu'elle soit ou non vidée de sa réalité politique, c'est en fonction de cette grammaire que le califat ne pouvait être assumé que par un arabe, issu de la tribu du prophète, dans la tradition sunnite, issu de la descendance du prophète, de sa descendance directe dans la tradition chiite. On mesure bien, à cette aune, à quel point le califat avait été vidé de son sens, à quel point le califat avait été démonétisé lorsque le sultan ottoman se décida, nous sommes dans les années 1640, se décida à relever officiellement le titre califal laissé en déshérence depuis 1517, depuis la prise du Caire par les Ottomans et l'exil à Istanbul du dernier calife abbasside. Comprenez bien qu'un Turc fut soldat, qu'un Turc fut général, qu'un Turc fut même sultan, c'est-à-dire détenteur de la réalité du pouvoir, était inscrit dans l'ordre des choses. Et le titre de sultan avait bel et bien été forgé au milieu du XIe siècle, forgé par le calife, pour donner un nom au pouvoir que s'était arrogé le chef de guerre turc qui l'avait subjugué. Mais qu'un Turc s'arrogea le califat, et l'Ottoman était bel et bien le grand Turc, le Turc par excellence, qu'un Turc s'arrogea le califat disait très précisément l'abandon dans lequel se trouvait alors l'institution califale. Par une étrange ironie de l'histoire, le sultanat ottoman fut aboli en 1922, avec la proclamation de la République de Turquie. Mais la République de Turquie n'abolit le califat que quelques mois plus tard, au début de l'année 1924. Le dernier ottoman, Abdülmejid II, ne fut jamais sultan, mais seulement calife. Alors, au fondement du califat, donc, l'identité arabe. Et ça, c'est un élément qu'ont très bien compris aujourd'hui les djihadistes de Daesh. Lorsqu'il y a un an, comme vous le savez, ils décidèrent de proclamer non pas un califat, comme on le dit parfois, mais de proclamer le califat. Les références doctrinales et historiques de Daesh ne se limitent pas en effet au salafisme, à l'imitation des salafs, des anciens, autrement dit à l'imitation de la génération des compagnons du prophète. L'imitation de ce moment originel dont la mythologie a été fixée dans le siècle et demi qui a suivi la mort du prophète. Daesh puise non seulement dans l'imitation de cette génération, de ce moment originel, mais puis également dans le répertoire symbolique de l'Empire de l'Islam. Le califat n'est pas une autorité circonscrite dans l'espace et le temps. Et d'ailleurs, Daesh a changé de nom au moment de proclamer le califat. En arabe, Daesh, c'est Dalal Islamiyah Filalak Washam, donc la Daola Islamiyah, je vais revenir sur cette expression, en Irak, et au Cham, c'est-à-dire dans la Grande Syrie, hein, Syrie au sens large, du Levant à l'Euphrate. Cette organisation s'est appelée désormais Daoula al-Islamiyah. Elle a abandonné toute restriction géographique de son nom. C'est que le califat est une autorité universelle, portée par une dynamique d'empire. Et à ce titre, la traduction la plus exacte du nom arabe de Daesh, Daoula al-Islamiyah, n'est pas l'État islamique, comme on s'emploie à le dire, mais bel et bien l'empire islamique. De l'histoire impériale de l'islam, les djihadistes ont retenu le rôle déterminant des étrangers. Des étrangers pourvu qu'ils soient sunnites. L'allochtonie sunnite contre l'autochtonie, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit kurde, chiite, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit yézidi. Il suffit de relever avec quelle emphase qui serait comique si ce qui se joue aujourd'hui n'était pas aussi tragique, avec quelle emphase les djihadistes occidentaux convertis portent dans leur nouveau nom, dans leur nom de conversion, le rappel de leur origine géographique, Al-Almani, Al-Faransi, Al-Normandie. Nom géographique dérivé des nations modernes, la Normandie, et qui remplace avantageusement les noms ethniques d'autrefois. Dans ce projet impérial qu'est le califat de Daesh, le concours de tous les peuples du Dar al-Islam, de tous les peuples du domaine de l'islam ou de ceux qui le rejoignent, est bienvenue. L'allégeance de Boko Haram, l'allégeance des émirs autoproclamés du Caucase, celle de telle ou telle faction taliban d'Afghanistan, ces allégeances n'affaiblissent en rien la cohérence du califat, parce que celle-ci n'est pas nationale, elle est impériale, et elle s'articule, comme autrefois l'Empire de l'Islam, elle s'articule autour d'une identité pivot, celle du calife arabe, maître de ces anciennes terres impériales que furent précisément la Syrie et l'Irak. Ce n'est pas sans raison que l'obscur djihadiste, connu à ses débuts sous le nom d'Abou Bakr al-Baghdadi, le fameux calife Ibrahim, se prétend aujourd'hui d'une illustre ascendance, une ascendance à la fois Quraishite et Husseinite, issue à la fois de la tribu et de la maison du prophète, comme l'étaient autrefois les califes abbassides. Si les étrangers ont toute leur place dans le projet de Daesh, c'est à la condition que ce projet s'enracine dans l'ancien cœur de l'Empire et s'adosse à la dignité première des Arabes. Tourné vers le domaine de l'islam, projet de reconquête du Dar al-Islam, Daesh nous serait resté à une autre époque totalement étranger, mais nous vivons dans un monde global. Et dans ce monde global, la réactivation de la notion de Dar al-Islam, de domaine de l'islam, cette réactivation a entraîné en parallèle la réactivation des notions de Dar al-Kufr, Dar al-Harb, domaine de l'impiété, domaine de la guerre. Dans le domaine de la guerre, dans le domaine extérieur à l'islam, le djihadiste se vit comme un étranger, fidèle, isolé, au milieu de la foule des infidèles. Et c'est en ce sens qu'est interprété dans les milieux salafistes le très beau hadith que j'avais cité tout à l'heure. L'islam a commencé en étranger, il redeviendra, comme il a commencé en étranger, bienheureux les étrangers. Alors qui sont les étrangers ? Eh bien, les étrangers, disent les commentateurs salafistes, sont ces gens, ce petit groupe de gens minoritaires qui vivent parmi les corrompus, sont ceux qui remettent droit ce que les autres ont corrompu. Il est d'ailleurs tout sauf anodin que l'un des sites salafistes francophones les plus actifs sur Internet est pris pour nom de domaine justement Al-Ghuraba, les étrangers. Et cette interprétation, qui vaut dans le domaine de la guerre, vaut également en terre d'islam. Et il y a quelques semaines à peine, l'un des derniers groupes ralliés à Daesh, groupe djihadiste algérien, a pris pour nom Sariyat Al-Ghuraba, littéralement la compagnie, au sens militaire, la compagnie des étrangers. Alors, en guise de conclusion, et ça n'en est bien évidemment pas une, y a-t-il, puisque j'ai fini par le califat de Daesh, y a-t-il un remède à ce que Abdelwahab Meddeb avait appelé il y a quelques années la maladie de l'islam ? Abdelwahab Meddeb, disparu il y a quelques mois, avait cherché un remède à la maladie de l'islam du côté du soufisme. Et par bien des aspects, le soufisme, qui incarne un islam indissociablement alloctone et autochtone, un islam autochtone en ce qu'il est ancré dans les tombes des saints, alloctone en ce que les saints sont des étrangers par excellence, venus de très loin mourir dans la terre qu'ils sanctifient par leur présence. Et par ailleurs, par excursion, les mausolées des Mamelouks, ces magnifiques mausolées des Mamelouks, ces autres étrangers magnifiques, s'élèvent comme un rappel des tombeaux des soufis. Eh bien, le soufisme, islam à la fois autochtone et alloctone, le soufisme est sans doute, aujourd'hui, en terre d'islam, la meilleure, la principale, la seule peut-être des résistances au djihadisme. Et c'est d'ailleurs à cette tradition mystique de l'islam que l'on peut rattacher, c'est de cette tradition mystique de l'islam que l'on peut rapprocher le surnom d'un grand personnage de l'islam chiite cette fois. Le surnom donné au huitième imam des chiites, vous savez, le chiisme, cette croyance dans la transmission généalogique du charisme prophétique à une succession d'imams. Le huitième imam, Ali el-Rida, est appelé imam el-Gharib ou Gharib el-Ghuraba, donc imam du Gharib ou Gharib el-Ghuraba, le plus étranger des étrangers, s'il faut traduire. Étranger pourquoi ? Parce qu'il est devenu étranger à la compagnie des hommes. Il est devenu étranger à la compagnie des hommes parce qu'il a atteint la wilaya, l'amitié en Dieu, la compagnie de Dieu. Je vous remercie.